Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, les grandes gueules, aujourd'hui avec un trio composé de Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion, l'avocat Charles Consigny et Didier Giraud, notre agriculteur de Saône-et-Loire. On reparlera de la réforme des retraites tout à l'heure à 11h20 dans le GG 7 et match. Doit-elle faire l'objet d'un référendum? Une équipe non, Charles et Didier, une équipe oui, avec Barbara et Olivier. À 11h, vous savez, comme tous les jours, on vous propose deux sujets de discussion et c'est vous qui choisissez celui dont vous voulez parler. Le mondial au Qatar, avec les consignes très strictes qui commencent à être distribuées aux clubs de supporters, notamment sur les vêtements à porter, comment se conduire avec la population locale, les mots à employer, les endroits à fréquenter. Et puis, autre sujet de discussion, le coup d'envoi aujourd'hui de la semaine de l'écriture. On utilise de moins en moins les stylos. Et donc, finalement, est-ce que bientôt, on ne saura plus écrire à la main? Voilà, deux sujets de discussion. Choisissez celui dont vous souhaitez parler avec nous. En attendant, on va continuer d'évoquer la facture énergétique, la manière dont elle risque de flamber, les décisions prises par certains maires, notamment, en particulier ce qui se passe du côté de Perrier, en Normandie.
RMC, les grandes gueules.
Ceux qui n'auraient pas reconnu, ou les plus jeunes, je ne sais pas, c'est la musique des bronzés. Les bronzés font du ski.
On ne sait pas s'il y aura de la neige à Perrier, en Normandie, mais en tout cas, on s'attend à un hiver rigoureux, d'autant plus qu'il faut chauffer à 19. Et donc, le maire a pris les devants en décidant d'offrir une polaire à tous les écoliers. Ils sont 350 000. Alors, c'est une petite commune, hein, Perrier. J'ai vu, ils ont 2256 habitants. Donc, c'est quand même un investissement important pour une petite commune. Les 350 écoliers de maternelle et de primaire vont recevoir une polaire de la part de la mairie. Le coût de cette initiative s'élève à 5 000 €, ce qui est beaucoup, hein, pour, à l'échelle d'une petite commune, parce que il faut que les enfants soient dans les meilleures conditions pour apprendre à l'école. C'est ce que dit le maire Gabriel Daube. Et si ça peut aussi permettre aux enfants dont les familles n'ont pas les moyens d'avoir chaud pendant les classes, eh bien c'est très bien. Alors on s'interroge, est-ce que l'hiver dernier ces enfants étaient en t-shirt? Parce qu'on peut imaginer que les parents quand même eux-mêmes de leur côté achètent des vêtements chauds pour l'hiver. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé ou est-ce que c'est de la gabegie?
Monsieur, en attendant d'avoir monsieur le maire avec monsieur Didier Giraud.
Écoute, je trouve que c'est encore une fois du buzz, de la pub autour de ce problème du chauffage. Enfin, tu l'as dit, Olivier, l'an dernier, les élèves, ils étaient pas en t-shirt dans des classes chauffées à 27 degrés, quoi. Donc, on veut exister à travers cette pénurie d'énergie et l'augmentation du coût de l'énergie et faire de ça une tête de gondole où tout le monde s'engouffre. Que le maire veuille que les enfants portent les couleurs de la municipalité et une espèce de d'uniforme, c'est quelque chose auquel je peux souscrire et je peux entendre, mais le couvrir et le parer de c'est parce qu'on va baisser le chauffage qu'il faut qu'on offre une polaire aux enfants, je trouve ça ridicule. Moi, ça m'aspire au récit de mon grand-père qui m'expliquait que quand il partait à l'école dans l'entre-deux-guerres, il partait avec sa gamelle sous le bras et ils emmenaient une bûche de bois sous l'autre bras parce qu'il fallait qu'à l'école, ils emmènent chacun leur part de bois pour mettre dans le poêle de l'école, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est revenu à ce temps-là? Je crois pas. Donc, voilà, je trouve cette histoire un peu ridicule.
Maître Consigny.
On n'est pas loin d'être revenu à ce temps-là, puisqu'on nous explique quand même qu'en gros, on ne va pas pouvoir chauffer. Donc, on est quand même...
On nous explique.
On est quand même pas loin de revenir crainte. à des époques... on va s'éclairer à la bougie, bientôt. On verra le spectre de Bruno Le Maire, Paul Roulet, travers les flammes des bougies. Il nous racontera.
Mais est-ce que c'est une bonne idée, le maire? Est-ce qu'il n'est pas pragmatique? Il dit, je vais aider les enfants à passer l'hiver au chaud avec ma polaire.
Moi, je trouve qu'on peut, il faut pas tout critiquer, si vous voulez. Je connais pas la situation précise de cette commune. Peut-être qu'il y a beaucoup d'enfants défavorisés. Après, je pense, moi, que ça n'est pas au pouvoir public d'habiller les gens. Je trouve que, en France, on demande beaucoup trop aux...
Bah surtout qu'il y a, déjà une allocation de rentrée scolaire.
On demande.
Il sert à ça.
La France, ça devient un délire. Et tout ça pèse quand même sur les gens qui payent ça en charge et en impôts. L'avocat indépendant que je suis peut en témoigner. Et donc, c'est voilà. Mais sur le principe, je trouve que la prise de conscience, si vous voulez, en France, que l'hiver, on n'est pas forcément censé être en t-shirt à l'intérieur de son appartement ou de sa maison, mais que c'est pas forcément une mauvaise idée de mettre un pull. Je pense que ça n'est pas une si mauvaise prise de conscience.
Mais est-ce qu'il faut passer par un investissement de la mairie, Charles?
Alors, Barbara
Le Pen, monsieur le maire, avec nous dans un instant.
De façon très pratique, on ne connaît pas non plus la qualité d'isolation thermique de ces écoles. Ah bah si c'est des écoles rurales,
ils n'ont pas été...
Alors, ce qui serait mieux, c'est déjà d'investir dans la rénovation thermique de l'école. Pour ma part, en 20 ans d'enseignement, dans les collèges où j'ai été, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on crevait de chaud l'hiver parce que les radiateurs étaient à fond. Et que, bien entendu, à l'Éducation nationale, vous ne pouvez pas régler vous-même les thermostats. Donc, tout le monde crève de chaud ou rien.
C'est le ministre
C'était le bonheur parce que tu sortais dans le couloir, tu caillais et tu rentrais dans ta classe, tu crevais de chaud. Surtout avec la chaleur humaine des 30 élèves. Après, encore une fois, là, on ne sait pas quel est le contexte. On ne sait même pas d'ailleurs quel sera l'hiver. Je pense que là, le gouvernement nous a sonné la guerre. C'était la guerre du Covid. Là, c'est la guerre du froid. Si ça se trouve, l'hiver sera plus doux. Ou même, si ça se trouve, il n'y aura pas trop de tension. Et donc, on s'en sortira. Et donc, ils nous expliqueront. Vous avez vu comme on a été formidable. On s'en est sorti. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va en être. C'est un geste de la commune. Je pense que c'est surtout effectivement de la communication. Mais bon, est-ce qu'elle est malvenue? Je ne sais pas.
Monsieur le maire.
Bah, c'est de la dépense aussi.
C'est à ses administrés de le dire.
Monsieur le maire de Perrier, bonjour.
Bonjour à vous tous.
Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Alors, expliquez-nous le bien fondé de ces achats de polaires.
J'entends les polémiques qui se greffent autour de ce projet, qui est en fait très très simple, qui n'a pas surgi ces dernières semaines. C'est dès le mois de mai, donc on n'a pas attendu les consignes gouvernementales, c'est dès le mois de mai qu'en fait j'ai eu cette idée, parce qu'au mois de mai, on a coupé le chauffage, parce qu'il me semble qu'au mois de mai on peut couper le chauffage, mais il a fait très froid au mois de mai. Et les élèves, alors bon, pour répondre à une des questions, mon école maternelle, parce qu'on a fait de gros travaux d'isolation dans nos bâtiments municipaux depuis une dizaine d'années, donc on est prêt à faire face à la crise énergétique, hein, rassurez-vous. Mais mon école maternelle, elle est vitrée, entièrement vitrée. C'est une très très belle construction, malheureusement, elle est très énergivore. Et donc je peux pas isoler les vitres, c'est très compliqué. Donc au mois de mai, quand les enfants, on a coupé le chauffage, il a fait 12 degrés dehors, donc évidemment les enfants, je l'ai remis. Et du coup, je me suis dit, mais ça va pas se passer comme ça l'hiver prochain. Je vais leur offrir un polaire. Voilà. L'idée est née comme ça au mois de mai dernier, vous voyez.
On est bien sur la dépense énergétique.
C'est pas le rôle des parents d'habiller leurs enfants?
Il y a un autre point que vous avez soulevé, l'un de vos chroniqueurs a souligné, c'est la sociologie de notre territoire. Vous savez, ici, on est à Perrier, dans le centre Manche. Et c'est une commune des marais. Et sociologiquement, la population est pas très, très, très riche, vous voyez. Et moi, je vois bien que les familles ont accueilli ça très favorablement. Parce que, voilà, c'est offert un polaire.
Il y a l'allocation de rentrée scolaire, déjà, qui est versée à ces familles.
Elle sert aussi à équiper les enfants de stylos. Vous savez, c'est un peu comme les régions donnent des ordinateurs aux lycéens. Les collèges donnent des dictionnaires français-anglais aux collégiens, des départements. Et ben voilà, nous on a décidé de donner un polaire. Alors on va offrir un polaire floqué de la ville. Voilà, bon, c'est pas un uniforme, mais et il le porte ou il ne le porte pas. Mais vous savez, 19 degrés pour un adulte, c'est pas toujours très très chaud, mais surtout pour un enfant quand il est assis toute la journée dans sa classe. Donc là, et surtout, on connaît pas les rigueurs de l'hiver. On va souhaiter que ce soit doux. Mais ça peut être utilisé qu'ils aient chaud pour travailler.
Qu'ils soient bien couverts. Après, c'est savoir qui doit habiller nos enfants. C'est la question.
Bien entendu, c'est bien entendu les parents, mais d'abord. Non, les parents.
Parce que je pose la question parce que ce matin, j'entendais que les maires se plaignaient auprès de l'État de pas avoir de bouclier énergétique, d'être un peu oublié dans les aides qu'on distribue en ce moment. Il y a un courrier, je crois, qui a été envoyé à Matignon en disant on va pas s'en sortir parce que il faut qu'on chauffe les piscines, les bibliothèques et la facture. Ah, bah, alors je me dis, est-ce qu'il est pas temps aussi pour ces mairies de voir un peu les dépenses dépenses et de, parce que je comprends, mais vous allez devoir payer peut-être plus cher vos factures d'électricité. Parce
que
en plus,
est-ce que ces 5000 là, ils auraient pas été mieux dans la facture d'électricité pour arriver à 19 degrés?
Sans doute, déjà chez eux, ils ont le bouclier tarifaire. Moi, vous savez, moi, je me plains pas de l'État. Hein. J'ai fait des travaux d'isolation avec l'aide de l'État au cours de ces 10 dernières années. J'ai juste ce problème avec mon école maternelle très, très vitrée. Donc, je suis prêt à faire face aux dépenses, à l'augmentation du coût énergétique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes collègues, hein, qui, évidemment, quand vous avez une facture de gaz qui augmente de 60%, soit vous augmentez les impôts, je ne vois pas beaucoup de vos chroniqueurs qui soient favorables à ça, soit on fait plus de services publics. Hein, on fait plus de restauration scolaire, on fait plus de piscine. Vous voyez, c'est pas possible, quoi. Donc, on essaie de gratter, de faire des économies sur nos dépenses d'énergie. Et moi, j'offre un polaire. Voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez.
C'est pas des économies, c'est des dépenses supplémentaires.
Alors non, parce que je le prends sur les économies que je fais. Parce que avec mes réductions...
Donc, c'est pas une économie.
Bah ouais, enfin c'est une économie, mais c'est un investissement dans l'économie. Voilà, on peut discuter sur les mots. Mais oui, ça me coûte 6 000 euros. Hein, 6 000 euros, vous voyez.
Il y a une version burqa ou pas? En ce moment, c'est...
J'ai une question. Ils sont made in France, vos polaires?
Oui, absolument. Absolument.
Bon, enfin, j'ai essayé. Donc c'est plus cher.
Non, mais ça, c'est bien.
Ils sont un peu plus jeunes, on va faire un achat groupé. Et puis
c'est mieux que du polaire chinois.
300 euros, la laine polaire.
Pour les chroniqueurs d'RMC, je les ferai payer, bien sûr.
Ah ben ça, j'imagine bien. Mais monsieur, du coup, est-ce que dans votre communication, parce qu'on est là-dessus, monsieur Daube, est-ce que il n'aurait pas été plus opportun de dire on veut que les gens soient identifiables et c'est une forme d'uniforme, c'est une forme d'appartenance à cette cette commune plutôt que d'habiller ça avec l'énergie qui devient un sujet récurrent et un peu fourre-tout, je trouve.
Bah, vous avez pas tout à fait tort, mais moi, c'est un peu une conséquence, hein, le fait d'être habillé. C'est vrai qu'ils auront on aura aux couleurs de la ville, hein, bleu et jaune, et puis il y aura le logo de la ville. Donc, la conséquence,
c'est une forme, en fait.
C'est du marketing.
C'est la conséquence, quand même.
Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a un débat aussi. Est-ce qu'il faut le retour du port de l'uniforme à l'école, finalement? Bien joué, Didier, parce que c'est ça. C'est que vous allez, ils vont tous être aux couleurs de la ville.
L'Ukraine.
Voilà. Oui, c'est par hasard, hein, vous voyez,
on n'a
pas fait exprès. Hein.
Mais, monsieur Daube, est-ce que ça règle quand même le problème de l'hiver rigoureux sur votre école, quand même, si jamais
il fait très froid? Dans la Manche,
c'est un moyen.
C'est jamais moins 30, hein.
Vous avez raison, c'est doux et humide en général. Hein. Mais bon, on n'est pas à l'abri quand même d'une poussée de froid au mois de janvier. Moi, je vois bien, et je voudrais pas que les élèves aient froid. Moi, je suis vraiment conscient du bien-être des élèves et des enseignants. Hein.
C'est habituellement,
juste une question.
Les hivers derniers, le chauffage était à combien? Parce que 19, c'est la règle, me dit-on, depuis toujours, dans la loi, personne n'applique.
Non. Dans la loi, d'accord. Mais oui, c'est centralisé, donc on le met à 20 degrés, c'est supportable. Et puis après, on fait en fonction des demandes. Hein,
mais juste une question, vous avez l'air de souligner le problème que vous avez particulièrement avec votre école maternelle, qui a été beaucoup avec des vitres. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Bâtiment. Les architectes aujourd'hui, les architectes de bâtiments publics, devraient être sur des bâtis qui sont un petit peu moins énergivores. Il nous dit que c'est tout neuf.
On avait eu ce débat avec les EHPAD et puis le soleil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la canicule, il y a eu ce problème là, hein, aussi. Hein. Vous voyez, mais c'est vrai, mais c'est un autre débat, l'architecture. Hein. Les maires pourraient vous en parler. Hein, parce que
du coup, c'est un des bâtiments qui a été rénové, celui-ci?
Non, c'est un bâtiment neuf qui date de 2000. Là.
Non, mais parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, 2000, avec le réchauffement
2000,
climatique.
Il fallait faire des grandes baies vitrées. Oui, mais c'était la mode, des grandes baies vitrées. Les bureaux, etc.
En 2000, les rapports du GIEC et en 2000, le réchauffement climatique, on le connaissait déjà. Par principe, de toute façon, des bâtiments, quand vous êtes dans des pays très chauds, les fenêtres, elles ne sont pas immenses, justement, précisément, et les murs sont épais.
Mais c'était la mode du baie vitrée, les bureaux. Regarde, les bureaux, c'est des grandes baies vitrées.
Le soleil est grand au printemps et à l'automne, c'est l'inverse.
On n'avait pas conscience du dérèglement climatique en 2000. Hein, voilà. Moi, j'étais pas maire, hein, c'est pas évidemment.
On pourrait faire des bâtiments à laine polaire, sinon.
Non. Bon, écoutez, voilà. Donc,
c'est bien.
On vous rappelle en juin pour faire le bilan.
Non, mais je trouve que c'est bien d'avoir ce sentiment d'appartenance à sa commune et que la municipalité.
Vous êtes loin de la mer, monsieur le maire.
Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question.
Vous êtes loin de la mer ou pas?
10 kilomètres. Non, on n'est pas très loin.
Regardez ce que je découvre. Moi, ce
Il y a la mer de tous les côtés ici, vous savez, 350 km de côte dans la Manche, c'est un magnifique département, je vous invite à venir quand vous voulez.
Vous êtes à côté de Coutances et de Saint-Loup.
Oui, c'est ça, entre les deux.
On ne peut pas se baigner là-bas.
Merci monsieur le maire, le maire de Perrier. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir. Dans un instant, on continuera d'en discuter avec Mickaël, il nous appelle des Yvelines. Je trouve que c'est un peu des magots de la part d'un maire de faire ça. Enfin bon, on reparle du coup encore de cette facture fichue, facture énergétique et des petits trucs que trouvent les uns les autres pour arriver à faire des économies. Allez, à tout de suite avec les GG au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC et RMC Story, c'est tous les jours. C'est en direct. Charles Consigny est avec nous, tout comme Didier Giraud. Et Barbara Lefebvre, Charles qui est avocat, Didier agriculteur et Barbara enseignante en reconversion. On discute de ce qui se passe du côté de la commune de Perrier. Le maire est avec nous, 2000 habitants. Nous sommes dans la Manche avec les recommandations qui sont appliquées par le maire. Il va équiper chaque élève de primaire et de maternelle d'une veste en polaire pour faire face à l'hiver. C'est ce qu'il nous a expliqué. C'est Mickaël qui va en parler avec les GG. Bonjour Mickaël.
Bonjour les GG, bonjour toute l'équipe. Bah écoutez, à Perrier, c'est fou en fait. Hein.
Oh, excellent.
Ouais, on se demandait quelle serait la prochaine vanne. Bravo. On n'avait pas osé, hein. Mais c'est bien de
vous la laisser.
Il fallait oser. Non, mais c'est complètement démago en fait. Il y a un moment, alors demain, on va annoncer que tous les enfants doivent faire du sport. Le maire va offrir une paire de baskets à tous les enfants. Stop, quoi. Il faut arrêter. Tout le monde doit se prendre en charge. Mais avant tout, il y a déjà la rénovation des bâtiments énergétiques. Barbara Lefebvre en a bien parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une grande priorité nationale et ça devrait être une grande priorité nationale. Il faut arrêter les 5000 euros pour une commune de 2000 habitants, mais c'est énorme.
Mais c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir refaire son école, c'est toujours pareil.
Il a une école toute neuve, mais pas du tout bien calée sur le réchauffement climatique.
Il nous a dit 2000.
Il nous a dit
que la facture n'était pas très élevée et qu'il ferait face à l'augmentation.
Oui, mais je pense que ces maires devraient se battre sur la rénovation.
Oui, bien sûr.
Allez-y, Mickaël.
Mais là, on est vraiment dans le coup de com'. Aujourd'hui, remarquez, avec le col roulé, etc., les coups de com' se multiplient. Hein, remarquez, il y a un bon profit à faire là-dessus, hein, sur la communication, mais on est dans la communication pure. Mais en quoi les élèves... Alors, les élèves vont avoir tous les jours, pendant 5 jours, le même polaire tous les jours, mais... Ok, alors, même si sur le fond, ça peut être une bonne idée, hein, c'est pas... tout n'est pas acheté dans cette idée. Hein. Franchement, tout n'est pas acheté.
Qu'est-ce qu'il explique aussi, qu'il a affaire.
Il y a un moment, le marketing à outrance, quoi, sur le réchauffement climatique, etc. Il y a tellement de solutions à mettre en place, mais il y a une réflexion nationale à avoir. Et
ça a dû vous plaire, Madame Borne, avec sa doudoune la semaine dernière.
Ah mais non, mais là on vit dans un monde parallèle en ce moment. Le col roulé, la doudoune, j'en peux plus.
Très en plus, elle porte sa doudoune à l'intérieur.
Non mais stop, il y a un moment, il faut arrêter cette démago à part entière, il faut arrêter surtout cette assistanat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste les gens pour tout, c'est-à-dire que les parents d'élèves ne sont pas capables de fournir un pull à leurs enfants.
Mais Mickaël, c'est tout à fait cohérent en fait, c'est l'État nounou qui s'occupe des petits détails insignifiants, alors que les grandes problématiques, les problématiques qui lui incombent, c'est-à-dire des stratégies sur 20 ans, 50 ans, plus encore pour aller. Par contre, ils sont forts hein, pour signer des COP21, pour t'annoncer des trucs. On va faire moins 2 degrés. Qu'ils n'appliqueront jamais et ils ne mettent pas en œuvre les politiques à long terme nécessaires. Par contre, pour acheter des polaires et des cols roulés, ça, ils sont forts. Donc, en effet, de toute façon, on vit avec des gouvernants qui ont que des stratégies à la petite semaine. Ah, voilà, c'est tout.
C'est la politique de la rustine, en fait. On est tous en train de mettre des rustines. Sauf que les rustines, il y a un moment, ça suffit pas. Le pneu, il se dégonfle quand même. Mais il y a un vrai problème là-dessus, mais moi, ça me rend franchement très...
Oui, mais on est tous un petit peu complices de ça, Mickaël. Oui, mais Mickaël, on est tous complices, parce que finalement, le gouvernement fait des chèques pour tout, et quand une catégorie de
personnes... Des chèques, on en demande plus.
Quand une catégorie de personnes n'a pas son chèque, elle se plaint. Non,
il fait des chèques pour tout, et pour n'importe qui, surtout. Pas pour n'importe quoi, pour n'importe qui.
Non, on ne le cible pas.
L'État, il est là pour faire des chèques ciblés. L'État, il est là pour accompagner des projets de société.
Oui, mais quand tu fais des chèques ciblés, il y aura forcément des gens qui sont oubliés, et qui disent pourquoi moi, j'ai pas eu mon chèque.
Non, il n'y a plus rien qui est ciblé depuis bien longtemps. Ça fait au moins 20 ans que dans ce pays, on distribue le pognon public sans aucun ciblage, criblage. Et alors, avec le quoi qu'il en coûte, on a ouvert les vagues du n'importe quoi.
Allez-y, Mickaël.
Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on refuse les chèques de plus en plus quand on est particulier. Et par contre, l'État signe des chèques à tout instant. Alors, c'est plus la mode du chèque, hein, mais bon. Non, mais très honnêtement, on est dans la politique de la rustine, on est dans la politique du jour après jour. On n'est pas dans la politique de l'anticipation. On n'anticipe rien. Mais moi aussi, dans ma commune, il y a 2000 habitants.
habitants, mais alors c'est pour ça que je rejoins quand même le maire. On a la vraie problématique. Nous, on a un centre de loisirs qui est tout neuf. Il n'est pas de 2000, il est de 2019. Mais aujourd'hui, il est absolument pas conçu. C'est-à-dire que l'été, les enfants, il y a 35 ouais. degrés à l'intérieur. L'hiver, il y a 15 degrés, quoi. Mais rien.
Non, mais là, il y a aussi des architectes et des gens qui sont censés réfléchir à l'après qui devraient être en tôle, quoi. Hein.
Mais parce que tout le monde.
Je veux dire, à un moment donné, quand en 2019, non mais quand en 2019, on n'est pas foutu de savoir qu'il va faire de plus en plus chaud l'été et que l'hiver il fait froid.
T'as pas entendu la Sorbonne nouvelle là, les étudiants qui font leur rentrée dans une fac qui a coûté je sais pas combien de millions et qui n'est même pas fini correctement. Il y a même pas les arrivées d'eau. C'est n'importe quoi. Il y a une poutre qui est tombée sur une étudiante. C'est du n'importe quoi.
C'est quoi, Mickaël, qui arrive? C'est le train?
C'est eux
le métro,
qui ont eu les appels d'offres, hein, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on a entendu à côté de vous, Mickaël?
On m'appelle parce que je dois dire des bêtises, on doit me corriger.
D'accord. Mais Mickaël, juste d'un mot, parce que vous dire, on n'est pas capable d'anticiper. Vous, comment vous avez anticipé cet hiver, là, justement, chez vous? Je sais pas si vous êtes en maison ou en appartement.
Mais j'étais déjà intervenu vendredi avec l'histoire du col roulé. Mais moi, je suis en maison, bien sûr. J'ai une maison qui fait 180 mètres carrés. Moi, je suis chauffé par le sol.
Ah bah, disons que ça va, un commercial dans les Yvelines. Ça rapporte?
Oh, monsieur Consigny, vous êtes dans les Yvelines aussi. Ça rapporte aussi, avocat, je crois, non?
Bah, moi, j'ai pas une maison de 180 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vendu vos enfants?
Non, mais
comment avez-vous anticipé?
Je me souviens, vendredi, vous avez expliqué votre grande maison, ouais. Mais vous avez une partie que vous ne chauffez plus.
En fait, nous, on chauffe pas le premier étage, voilà, on chauffe le rez-de-chaussée, voilà. Ouais. Et en fait, on a un chauffage au sol, donc le chauffage est communicant, on le met à 19, ça répartit sur la totalité de la maison, et effectivement, les pièces d'en haut qui sont les chambres, on y va pour se coucher, une fois que vous êtes sous la couette, vous avez pas besoin de chauffer à 25, hein. Et très honnêtement, vous dormez mal quand vous êtes surchauffé.
Vous avez raison. Mickaël, voilà. À bientôt dans les GG. Salut, Mickaël.
Le mieux, c'est de mettre le chauffage à fond et d'ouvrir la fenêtre. Comme ça, t'as chaud, mais t'as de l'air aussi.
Et puis, c'est ça. Et puis, tu réchauffes l'extérieur, ce qui fait que quand tu sors, t'as pas froid dehors.
Et l'été, pareil. L'été,
ça, c'est la méthode de la clim au Qatar.
Tu te mets la clim, mais t'ouvres quand même ta fenêtre pour avoir.
C'est les bras zéro dehors, hein, c'est ça, hein, c'est le principe.
C'est ça qu'il faut faire.
C'est Estelle qui est avec nous, elle nous appelle de l'heure. Estelle, bonjour, Denis. Estelle.
Bonjour.
Alors, qu'en pensez-vous, ma chère Estelle, de l'histoire des polaires?
Oui, cette histoire de polaires. Donc, certes, ça peut paraître ridicule en partie sur le papier. Mais faut prendre certains critères en compte aussi. C'est une école maternelle. Donc l'école maternelle dit pas de prime de rentrée, bien sûr, vu que c'est pas avant 6 ans. Mmh. Donc moi, je fais partie des gens qui sont parents solo. Donc je travaille. Je gagne suffisamment, malheureusement, pour pas avoir d'aide. J'ai fait une croix sur la pension alimentaire, sinon ça me fait sauter une tranche d'impôt. Donc on fait des concessions, voilà, je gagne ma vie normalement pour quelqu'un de mon âge de 35 ans. Je suis les gros mois où je fais beaucoup, où je travaille beaucoup, je suis pile à 2000 euros. Donc j'estime ne pas être non plus à plaindre, mais je suis pas dans les plus gros salaires parce que voilà, je fais mes heures. J'ai un enfant à charge, donc les tarifs de cantine, je paye plein pot. Je suis à 5 euros le repas le midi, à 10 euros le centre aéré pour le matin plus le soir.
Oui.
Parce que voilà, les nourrices, c'est juste hors de prix. C'est des forfaits à 1000 euros par mois, je ne peux pas me permettre. Mmh. Parce que il a bientôt 6 ans, donc les remboursements sont bientôt terminés aussi. Ouais. Il faut compter sur ça aussi.
Et le papa, il aide un peu?
Le papa, en fait, j'ai pris la décision de faire un refus de pension alimentaire, parce que sinon, en fait, je le paye en impôt. Comme c'est compté comme une rente, la pension alimentaire, lui, il le déduit de ses impôts, mais moi, je l'ajoute au mien.
Oui, tout à fait.
Donc c'est un truc.
Par ailleurs, en prenant en charge certaines choses.
Est-ce qu'il peut, voilà, c'est ça. D'accord, je comprends l'histoire de la pension alimentaire, mais c'est plus un problème technique d'impôt.
Est-ce qu'il peut payer la polaire?
Voilà, est-ce qu'il aide derrière quand même au quotidien?
Après, moi j'ai tout en charge. Je paye la mutuelle de mon fils. Il m'aide à payer. Donc là, comme on l'inscrit tous les ans, on l'inscrit à une activité sportive parce que c'est un enfant, il a besoin de faire sport, il aime ça, donc il faut le laisser faire son sport. Donc l'année dernière, c'était du karaté, c'était 150 euros sans la tenue, donc la licence. Cette année, il a 5 ans.
Ah, vous l'avez mis au tir alors cette année?
Donc cette année, non, il a voulu changer, il s'est mis à un sport qui est un petit peu moins cher, heureusement, au foot. Donc ça reste quand même 70 euros de licence, plus une tenue. Donc voilà.
Mais la polaire, dans un budget, je comprends ce que vous dites, et effectivement, ça fait accumuler. La polaire, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Enfin, je sais pas, une polaire chez Decathlon.
C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais quand on parle que tout le monde doit être sur le même pied d'égalité à l'école, que, offrir
une école,
même si elle reste à l'école sur le porte-manteau, comme nous, on voit. En début d'année, on est obligé de leur donner des chaussons. Un coussin pour qu'ils puissent faire leur temps calme. Et est-ce que ça pourrait faire partie d'un équipement d'école aussi, comme les chaussons qu'on doit fournir?
Attends,
On peut faire une petite tête, tu n'as pas connu ça, toi. Ah non, j'ai pas connu.
Le temps calme,
expliquez-moi ce que c'est que le temps calme.
Le temps calme, en fait, c'est un petit temps qu'ils ont en début d'après-midi où ils se mettent sur leur table, ils mettent un oreiller sur la table, ils croisent les bras, ils mettent la tête dessus et c'est un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est le calme.
Parce qu'à cet âge-là, il y en a encore qui ont besoin de faire la sieste. Aussi,
voilà, hein. Donc ils ne dorment plus parce qu'ils sont grands, mais ils ont encore ce petit temps de repos quand même.
Ouais. Mais sérieusement, vous dites, en fait, ce serait pas idiot d'avoir une polaire qu'on laisserait là-bas, un peu comme un uniforme, comme une blouse.
C'est comme ça que le maire nous l'a expliqué d'ailleurs.
Hein. Ça s'appelle Didier.
Moi, c'est comme ça que je le vois, comme une partie d'un uniforme qui pourrait en soi servir aux enfants parce que ça permet aussi de peut-être baisser un petit peu les chauffages dans les écoles.
Qui mettrait uniquement à l'école, comme ça, ça.
Voilà, qui reste à l'école.
Oui, pourquoi pas. Il
paraît qu'ils vont avoir la même en Conseil des ministres aussi. C'est-à-dire, avant d'entrer en Conseil des ministres.
C'est le col roulé de Bruno Le Maire.
Voilà, ils auront tous un petit col roulé, sur les porte-manteaux.
On peut déjà faire des grosses économies, c'est baisser le chauffage de l'Assemblée nationale, les mettre en télétravail. Parce que pour dormir à l'Assemblée, autant faire la sieste.
Quoique le télétravail, c'est aussi de la dépense d'énergie, hein, la connexion.
Marisol, juste une chose.
Quand je suis en télétravail, je touche 2 euros par jour pour l'électricité et l'Internet.
Ah ouais, vous avez calculé, donc c'est moins cher que...
Non, c'est mon employeur, c'est basé comme ça. Ah oui, c'est 2 euros par jour, tout le monde. Pour l'électricité, la connexion Internet, voilà. Donc, je pense qu'un ministre n'est pas plus connecté que moi sur Internet quand il travaille. Donc, 2 euros par jour pour être chez lui au lieu de dormir à la télé quand on les voit, là, quand on les regarde tous les midis, c'est quand même déprimant.
Estelle, je suis désolée. Enfin, je comprends la petite saillie sarcastique sur les députés. Mais je crois que les députés, en particulier cette Assemblée nationale, ils ont vraiment envie de travailler. Dans les commissions, ça bosse énormément. Peut-être et croyez bien que quand vous faites 4 jours par semaine, vous commencez le matin et vous terminez des sessions à minuit, c'est pas pour aller dormir à l'Assemblée. Je crois que l'image des députés qui dormaient à l'Assemblée, c'était à l'époque de Mitterrand et Chirac.
C'était le bon vieux temps.
Aujourd'hui,
surtout
ça bosse.
C'est la phase digestive. En général, voilà. Ceux qui dormaient.
Je crois qu'aujourd'hui, ils bossent énormément et d'ailleurs, certains se sont même réjouis de ne plus être réélus parce qu'ils allaient enfin pouvoir retrouver une vie normale. Donc, ils bossent quand même, nos députés. Hein.
Merci. Du coup, Estelle, vous savez, si dans l'école, j'ai l'impression que vous voulez demander à l'école chez vous aussi qu'ils aient la petite polaire, alors pourquoi pas, non ?
Si ça peut permettre aux enfants d'être tous au même niveau et qui sait peut-être baisser un petit peu le chauffage parce que nous, il y a des choses aussi effarantes que je vois le matin en arrivant à l'école. La nuit, donc nous, on a la chance d'avoir une école qui est pas trop énergivore, je pense.
D'accord.
Ils ont du double vitrage, ils ont des volets roulants. Donc, c'est des petites classes qui sont assez simples à chauffer. Donc, je pense qu'on n'est pas les plus mal logés dans l'école où est mon fils. Mais le truc, et les maîtresses le disent le matin, l'accueil, en fait, ils ont chacun une petite porte qui donne sur l'extérieur de leur classe, où on dépose les enfants. D'accord. Le matin, le midi et le soir, donc c'est-à-dire 4 fois par jour. Avec les sorties, ces portes restent ouvertes en permanence.
Ah bah oui,
merci. Merci Estelle.
Donc le matin, à 8h, ils ont chauffé toute la nuit l'école pour avoir les 20 degrés pour les enfants.
Et tout est parti.
Et ça reste ouvert pendant une demi-heure tous les matins à 8h, à 11h, à 13h et à 16h.
Les architectes, non mais de toute façon je vais vous dire, honnêtement, les établissements scolaires, des fois, on se demande s'il y avait vraiment eu un architecte. Moi j'étais dans un collège de près de 800 élèves, il y avait un seul escalier pour tout le collège. Donc quand vous avez la récré, la demi-journée et que vous avez les 800 élèves par le même couloir, parce que les deux petits escaliers latéraux, ça c'est pour la sécurité, on n'a pas le droit de les emprunter, donc ils sont fermés avec des portes cloutées, et on prend tous le même escalier. Donc évidemment, les gamins, les bousculades, c'est inévitable. Et on se dit, mais qui est le mec qui a fait ça? Et je peux vous dire, le collège de Puteaux où j'étais, la cour de récréation, c'était une cour de prison. Il n'y avait rien, un banc, c'était l'horreur. On se demande qui sont les mecs qui font ça.
Merci à Estelle d'avoir été
avec nous. Et moi, je sais que le dernier petit détail qui me tue pour une école maternelle, donc nous, c'est de la maternelle jusqu'à la fin du primaire, c'est qu'on est dans l'heure. Bon, en Normandie, on n'est pas réputé pour avoir 35 degrés toute l'année. Il n'y a même pas un préau. Quand il pleut, ils sont obligés de rester dans les classes parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour aller dehors.
Voilà.
Il n'y a pas de préau.
C'est important pour les enfants de sortir.
C'est débile.
Il n'y a pas de préau.
Voilà. Enfin, c'était
tout petit pour
toutes les écoles.
Ça a changé. Mamie en maternelle, elle était dans une école en Ile-de-France qui n'avait pas de préau. Quand ils flottent, ils avaient 10 mètres carrés pour se mettre tous en randonnion sous un espèce de petit auvent de rien.
Ils restent dans les classes parce qu'ils ne peuvent pas sortir parce que tout le monde n'a pas de capuche. Des fois, c'est des averses alors qu'il fait chaud, on ne leur met pas les gros manteaux d'hiver.
C'est idiot.
Et c'est toutes des petites aberrations qui fait qu'on pourrait faire des économies là-dessus.
Exactement.
Et baisser d'autres choses qui sont des points de dépense comme le chauffage à l'école. Moi, je pense que la facture de chauffage doit être énorme avec ces portes ouvertes qui nous scandalisent, quoi.
Estelle, merci d'avoir été avec nous.
Merci pour votre émission.
Merci d'avoir été dans les GG. À bientôt, Estelle. Tu dis, Didier.
Bah, c'est dans la conception qu'il faut réformer.
Oui, bah, il faut des appels. Enfin, quand tu mets un appel d'offres, il faut aussi des cahiers des charges.
Mais quelle est la bonne raison pour avoir fait disparaître les préaux? J'essaie de trouver.
Ça prend de la place.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est la place.
Tu récupères et tu mets des cahiers
d'urbanisme qui a
plus. Ça prend la place.
Ouais, mais c'est général. Ça, les préaux, tu n'en trouves plus du tout. C'est que dans les vieilles écoles où tu vas avoir dans les vieilles écoles cette espèce d'avancée avec les classes au-dessus et les petits piliers. Mais dans les nouvelles écoles, t'as quasiment plus de préaux. Donc tout le monde est dehors sous la flotte et t'as des gamins qui jouent sous l'eau. Ils reviennent, ils sont tout mouillés.
Ils retournent dans ton école à Nice.
Mon école à Nice, école Bischofheim.
Je crois qu'il y a une classe qui a ton nom maintenant, la classe à la Marchal.
L'école a été rebaptisée.
On met les camps.
Et ensuite, elle a été démolie.
En fait, il y a des radiateurs tout le tour de la classe. Ils sont tous contre le radiateur.
Allez, dans un instant. Alors, on avait quand même posé la question, offrir des polaires aux écoliers, est-ce que c'est utile ou ridicule? On va voir ridicule quand même, 74% pour les 1200 personnes qui ont écouté la discussion.
Je crois que les gens ont plus envie qu'on les prenne pour des enfants.
Oh, tu vas voir, si on a un hiver rigoureux, tu vas voir le concours.
Non, moi j'attends. Vous allez voir, vous n'avez pas vu ça? La météo du chauffage, on va voir ça tous les jours à la télé.
Ah, c'est quoi?
Mais oui, on va avoir une météo et on saura précisément qui dépense le plus avec des couleurs comme le Covid, rouge, orange, jaune.
Ah, mais c'est la guerre.
Adoré. Didier, mais tu vas adorer.
Olivier, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Pour les valeurs.
Et maintenant, on va faire des conseils de défense énergétique.
En pull roulé. En col roulé.
Dans un instant avec les GG, on fera un petit clin d'œil à nos amis les maires parce qu'on a le Grand Prix des maires. Qui arrivent toutes les bonnes initiatives des maires de France, justement. Peut-être que le maire de Perrier aurait pu concourir. Nous serons du côté d'Evian, d'Evian-les-Bains. Et puis, on vous parlera du quiz des GG aussi.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, Charles Consigny et Didier Giraud. De quoi voulez-vous que nous parlions ensemble tout à l'heure à 11h? C'est le à vous de choisir. Alors on vous a proposé deux sujets de discussion dans les GG, dans les grandes gueules. Soit les Français qui ne savent plus écrire à la main, c'est la semaine de l'écriture. On utilise de moins en moins le stylo. Finalement, on se rend compte que même chez les enfants et encore plus chez les adultes, on perd l'habitude d'écrire. Donc, est-ce que c'est problématique ou est-ce que vous voulez que nous parlions de ce mondial au Qatar qui approche et des consignes qui commencent à être envoyées, le code de bonne conduite qui commence à être envoyé aux supporters? Vous allez sur rmc.fr, vous votez et vous nous dites quel sujet vous voulez voir discuter tout à l'heure à 11h. En attendant, on va parler du Grand Prix des maires.
RMC, les grandes gueules.
Oui, le Grand Prix des maires qui arrive à grands pas, prix national qui met à l'honneur les maires qui réalisent des projets ambitieux et innovants. Le but étant bien sûr d'améliorer la vie de leurs concitoyens. À chaque édition, ce sont près de 250 maires qui candidatent. L'année dernière, avec Olivier, on avait eu la chance, et on est passé un bon moment, d'animer la grande soirée des maires.
Au Lido,
c'était la dernière, on ne savait
pas. Et cette fois-ci, ça sera aux Folies Bergères.
Folies Bergères face à...
Donc, les Folies Bergères vont fermer aussi, juste après.
par terre de maires, d'élus qui sont récompensés. L'année dernière, on avait remis une récompense à Josiane Lay, maire d'Evian-les-Bains, lauréate dans la catégorie sociale pour la mise en place de distributeurs de protection féminine gratuite. Et cette année 2022, elle candidate de nouveau avec sa ville, Madame la maire Josiane Lay. Bonjour.
Bonjour à vous.
Et cette année, vous mettez en place le frigo solidaire.
Oui, cette année, nous avons installé dans la rue commerçante d'Evian un petit frigo solidaire avec deux objectifs. Le premier, c'est de permettre aux gens qui en ont besoin d'aller se servir. Il est un peu discret, donc les gens peuvent aller se servir en toute discrétion. Et puis le deuxième objectif, c'est éviter de jeter aussi, notamment pour les restaurateurs, de jeter leur plat et de le mettre dans le frigo et les gens peuvent se servir.
C'est-à-dire que le frigo, il est rempli par les restaurateurs?
Oui, par les restaurateurs, par les commerces qui vendent les commerces de bouche, les marchés, les fruits, les légumes.
Donc il y a quoi dans ce frigo? Il y a tout.
Il peut y avoir des yaourts, des fruits, des légumes, des plats cuisinés par La dernière fois, c'était de la blanquette de veau. Il y avait 10 plats de blanquette de veau d'un restaurateur. Et voilà, l'idée est vraiment que les gens aillent se servir.
Et comment, pardon, on contrôle ou pas? Parce que finalement, quelqu'un peut venir tout prendre ou...
Alors, si quelqu'un prend tout, c'est qu'il en a peut-être besoin. On n'est pas dans le jugement. Mais effectivement, on est en partenariat avec un commerçant qui gère, donc tous les jours, qui regarde s'il faut jeter des aliments, s'il y a bien les dates de péremption, parce qu'il faut qu'on soit quand même vigilant sur cette hygiène, et puis qu'il le nettoie régulièrement.
D'accord.
C'était ma question, comment c'est géré sanitairement? Est-ce que vous avez des normes précises? Parce que normalement, un restaurateur, il n'a pas le droit de faire
recycler.
C'est des règles très strictes pour recycler des invendus, quoi.
Voilà. Alors, en fait, il faut vraiment qu'il y ait le jour de fabrication du plat. Et puis, l'étiquette jusqu'à demain, en fait. Il y a vraiment des
on est sur des DLC très courtes, quoi.
Oui, tout à fait.
Non, parce que c'est quand même un des problèmes. Enfin, moi, je sais que dans mon entreprise, j'ai travaillé un petit peu avec l'épicerie solidaire et les DLC, c'était quand même un vrai problème pour travailler.
C'est quand même le gros souci. C'est pour ça que le partenariat avec le commerçant est intéressant. Parce que c'est lui qui va pouvoir aussi surveiller, contrôler, nettoyer, vider.
D'accord.
Voilà.
Alors, on retient votre frigo solidaire. Vous avez candidaté de nouveau, madame la maire d'Évian-les-Bains, Josiane Léon. On verra si c'est récompensé. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne
journée, madame la maire.
Bonne journée.
Au revoir. Et la campagne d'inscription, elle continue. Hein. Vous pouvez aller sur rmcgrandprixdesmaires.fr pour inscrire votre commune qui a pris une initiative originale, innovante. Ben, c'est le moment de le faire savoir et de la récompenser. On y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
C'est le retour de Monsieur Louis Gerbier. On y va, Louis.
Rebonjour. Quelle reine célèbre sera jugée à Laval demain?
Une reine?
Ouais, une reine. Un petit indice sonore.
Game of Thrones.
Ouais. C'est Cersei Lannister.
Bah oui.
La reine de Game of Thrones. Alors vous connaissez peut-être ce principe en droit.
Je crois qu'il y a moi qui ai vu la série. Merci,
ouais.
Non, mais là.
Mais
c'est la série la plus vieux au monde.
Vous pouvez juger.
Attends, laissez-moi expliquer.
Et quoi de bazar? Et ben, c'est quelque chose qui se fait régulièrement en droit, c'est de faire un procès sur un personnage fictif qu'on fait dans les conditions du réel. Il y aura des avocats, des magistrats, des étudiants en droit.
Ah d'accord.
Et on va.
C'est thérapeutique.
Ouais, c'est même. Enfin,
c'est Cersei, c'est plutôt la méchante.
C'est formateur. Non mais c'est formateur.
Moi, j'avais assisté au Grand Rex, au procès de Dark Vador.
Dark Vador, exactement.
Ah oui, ça avait été incroyable. Le Grand Rex était bondé. Là, il y avait 2000 personnes. Il y avait tous les ténors du barreau parisien qui étaient là. Il y avait les accusateurs, les défenseurs. D'accord. Et Dark Vador avait été acquitté. C'est ça qui
a
été
à la fin, il avait été
acquitté. Non, mais ça a des vertus de formation.
Ouais, de formation.
Ça permet de montrer comment fonctionne un procès. Apprenant un personnage fictif, voilà. Alors, c'est ludique et en même temps
ça permet d'expliquer comment ça fonctionne. Il y aura des étudiants de droit de Laval,
c'est un concours d'éloquence
et des magistrats aussi.
D'accord.
Ouais.
Ah oui,
c'est sympa.
Donc rendez-vous
demain le 4 octobre. Pourquoi? Parce que demain on pourra fêter les, ça fait combien, 58, les 50 ans, 60 ans?
Non, 58, ouais, ça fait 64 ans.
Merci. Les 64 ans du 4 octobre 58, le jour de la création de la Constitution de la 5e République. Alors, vrai ou faux, le premier film porno à succès fête ses 50 ans. Voilà, c'est là qu'il était, les 50 ans.
Alors, attends, 50 ans, ça fait 72.
C'est vrai, la 5e République.
72.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai,
c'est vrai. Gorge profonde.
C'est,
j'y étais. Connaissez classique, Alain.
Autant la Pléiade, c'est un peu fait là.
Mais question sur Balzac, alors.
72.
En 1972, pour la première fois, un long métrage pornographique est diffusé dans le cinéma classique.
C'est mon année de naissance.
Ah, que des grandes choses en 72.
Ouais, apparemment.
Ouais, celle de Zidane aussi, je crois, non?
Ah.
Que des grandes choses.
Il a 50 ans, Zidane?
Oui. Ouais.
Ouais, il est de 72, Zidane. Ouais.
Il est du 23 juin 72. Quel député a tweeté ce matin « Mangez vos morts »
Mangez vos morts.
Oui.
Daniel Obono.
Jeffrey Dahmer.
Non,
Daniel Obono.
Non.
Mangez vos morts. Daniel Obono, exactement.
Ouais, mais bon, c'est pas possible.
Si, elle a tweeté. Alors, je vous lis le tweet en entier. Vous pouvez le voir sur RMC Story. Bonjour à tous et toutes. Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. vous m'avez suivi. Cela, mangez vos morts. Non, voilà, rien que ça.
Sauf aux gens qui instrumentent la lutte des femmes.
On a rien compris encore.
Je reviens, c'est un tweet de soutien à Sandrine Rousseau.
Bah oui, ça, moi j'avais compris, mais
mangez vos morts.
Mangez votre phrase aussi, je pense que c'est la mangez tout, la mangez leur
programme. Ça veut dire quoi, mangez vos morts?
C'est une insulte.
Allez vous faire, tu vois, c'est ça.
Ah oui, d'accord.
C'est du vocabulaire de député de la République, ça.
Exactement.
Non, mais c'est honteux.
C'est du vocabulaire de Kaira de banlieue, ça.
Oh là là.
C'est ça.
Je vous mange le mort.
Bon, refais un coup.
Non. On continue.
Alors ça, c'est pour Barbara. Quel animal protégé va pouvoir être abattu après une autorisation préfectorale?
Horrible. Les loups.
Exactement.
C'est une honte absolue. Vous savez que c'est la première fois. Alors, je vais vous expliquer.
Ouais, attention.
Non mais tu prends pas 3 heures parce que je vais te répondre quand même.
En Lozère, des éleveurs se sont particulièrement suragités. On fait des pressions incroyables. Pas besoin de faire beaucoup de pression d'ailleurs dans ce pays sur ce gouvernement et sur ces préfectures qui est ouvertement pro-chasse. Et donc, pour 0,1%, hein, 0,1%, d'attaques de loups sur des moutons, on va tuer 17% de la population de loups en France, puisqu'il y a un prélèvement de 176 loups qui est autorisé sur une population totale à peu près de loups estimée à peu près à 1000 loups.
Qui est fausse.
C'est l'office, c'est ça. Les éleveurs, eux, ils savent bien mieux compter les loups que l'Office français de la biodiversité. C'est ça.
Puisque l'Office français de la biodiversité a des instructions pour minimiser les comptages.
Moi, je vais te dire, c'est une honte. On est un pays dans lequel on a enfin pu réintroduire le loup. D'ailleurs, le loup s'est réintroduit lui-même après avoir été massacré et éradiqué.
Arrête de dire n'importe quoi.
Il y a le loup en Allemagne. Je dis pas n'importe quoi. Alors, tu me laisses terminer. Il y a le loup en Espagne. Il y a le loup en Espagne. Il y a le loup en Italie. Il y a le loup en Allemagne, partout ça se passe très bien. Il n'y a qu'en France ça se passe pas bien parce que les éleveurs ne veulent pas faire les efforts nécessaires alors qu'ils sont largement accompagnés.
Mais arrête de dire des conneries aussi grosses que toi, Barbara.
Je dis pas de conneries.
Tu vas prendre tes petites bottes et ton stylet et tu vas venir avec
ton
moi
argument.
Et tu vas garder les moutons. Tu vas les garder les moutons.
Tu m'expliques comment ça se fait qu'en Allemagne ils n'ont pas de problème à ce
moment-là. Mais c'est faux.
C'est pas vrai.
Il y a aujourd'hui 17 pays d'Europe.
Oui.
Qui demande à ce qu'on revienne sur la réglementation.
Mais n'importe quoi,
J'ai fait le voyage ce matin dans le train avec un député européen. Je savais qu'on allait se foutre sur le nez sur le sujet. Je lui ai demandé des références. Il m'a dit, il y en a 17. Sauf que derrière ça, il y a le lobbying écolo qui dit minimiser les comptages. Qui dit le lupus strictement protégé, on ne peut rien
comment
y faire.
Comment on peut dire
les règles d'abattage?
Tu sais ce que c'est le lobby des chasseurs, toi, à côté?
Mais arrêtez
vos blagues.
C'est vraiment choquant d'abattre un loup.
Tu te fais bouger. Il y a des dérogations.
La fin de la régulation.
Il y a des tirs
d'animal.
Le tir de défense.
Dysfonctionnement.
Le tir de défense est autorisé. Il y a.
Mais tu sais c'est quoi
il y a des tirs.
Tu parles d'un mot que tu connais même.
Il y a des tirs de régulation. Il y a des tirs de régulation.
Elle est folle, cette fille.
Il y a des tirs de régulation. Il y a des tirs de régulation qui sont autorisés.
C'est quoi un tir de défense? Puisque Madame Barbara sait tout sur le loup.
Un tir de défense, c'est quand il y a une attaque de loup et qu'un loup est menaçant, il peut être tiré par un éleveur, par n'importe qui. Il y a aussi des tirs.
Au milieu des moutons, t'as pas le droit de lui tirer dessus.
Il y a des tirs de prélèvement également. Il y a des tirs de prélèvement qui sont également autorisés. C'est-à-dire qu'il y a des tirs.
Faux.
Et là, il y a une augmentation unique dans l'histoire depuis les 40 dernières années pour prélever davantage de loups. C'est une honte.
Heureusement qu'il y a cette évolution de la réglementation.
Non.
Parce qu'aujourd'hui, c'est intenable. Les éleveurs dans ces zones-là, ils sont en train d'arrêter leur activité, tout simplement.
Qu'ils aillent demander aux Allemands comment ils font, eux,
mais
pour
les
pas
Allemands,
problème.
Ils sont pareils que les autres. Ils veulent tirer les loups.
Non, parce qu'ils font des clôtures.
Ils font
pas des clôtures.
Il n'y a pas de moutons en Allemagne.
Mais bien sûr que si, il y a eu des attaques de moutons en Allemagne et ça a été protégé, justement. Donc arrêtez.
Merci Louis.
Merci à vous, à demain.
Allez, dans un instant, à vous de choisir.
Et ça la fait rire en plus, tu vois, elle rit en plus.
Les Français ne savent plus écrire à la main des coins
et on va les garder.
Vous le voyez,
allez, à tout de suite avec
les
Gégés.
Ah, la chasse.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.